André Lumbashi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être de notre Radio Capi. Vous accorde la parole aujourd'hui autour de la problématique de la desserte en électricité en RDC. La Société Nationale d'Électricité, département des distributions de Kinshasa, annonce la fermeture de la centrale hydroélectrique de Dongo et le groupe G26 de la centrale Inga 2. C'est à partir de ce mercredi 20 février jusqu'au 29 mars 2013 pour la centrale de Dongo et du 18 au 28 février en ce qui concerne le groupe G26 de la centrale Inga 2. Et pour cause des travaux de maintenance. Étant donné que Dongo alimente plus d'un site stratégique à travers le pays, d'aucuns craignent que des perturbations puissent être causées par cette situation et que ces perturbations puissent également causer énormément préjudice à plusieurs abonnés. Cette situation donc relance le débat sur la qualité de la desserte en électricité en République démocratique du Congo. Selon vous, quelle peut être la solution efficace pour améliorer la desserte à travers le pays? Réagissez à cette question. Notre standard est déjà ouvert et composé le 081-890-63-15. Titi Poutou, Guy Manzangou et Pierrot et la Meji réalisent cette émission. J.R. Lungembo vous la présente et coordonne sous la supervision de Nicole Ngaka. Bienvenue à tous.
Le débat politique, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par Internet, pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci de votre fidélité. La République démocratique du Congo a toujours considéré l'énergie comme l'une des principales clés de son développement. Cependant, le bilan énergétique du pays, qui date des années 80, a mis en évidence un contraste frappant entre d'importantes ressources pas suffisamment exploitées et un faible taux d'accès des populations à l'énergie électrique, soit 35% en milieu urbain où vivent près de 30% de la population, contre 1% en milieu rural où vivent 70% de la population congolaise. Par ailleurs, le secteur de l'énergie se caractérise par la vétusté de ses installations. Nous avons dans ce studio M. Ladé de la SNEL, M. Eric Mbala. Bonjour M. Ladé.
Bonjour.
Voilà, nous avons, disons l'année dernière, on a pu observer de fortes perturbations. Nous avons pu observer des fortes perturbations, disais-je, du courant à travers le pays. Et selon un communiqué de la SNEL, cela a été dû au phénomène étiage. Voilà, aujourd'hui, nous observons pratiquement le même perturbation. À quoi serait dû tout cela?
J'aimerais quand même...
Parce que nous sommes en saison des pluies.
Oui, c'est vrai. Vous avez dit que l'année passée, on a connu de perturbations, mais je pense que vous parlez plutôt de 2011.
2011,
on avait connu plutôt de perturbations assez importantes à l'étiage. Cela a été dû du fait que, comme vous le savez, le canal d'Amenedinga aujourd'hui est encombré par plus de 20 millions de mètres cubes de sable, de sédiments, et qui occupent donc les volumes utiles de l'eau dont on a besoin pour pouvoir produire l'électricité. Mais depuis 2011, donc, il y a un travail qui a été amorcé et qui a fait que lors de la saison sèche de l'année passée, si on s'en souvient, on n'avait pas autant de perturbations qu'on avait connues en 2011. Actuellement, depuis la semaine passée, il y a des perturbations dans la fourniture d'énergie électrique desservie à travers les centrales d'Inga. Cela est dû au fait d'arrêt des groupes pour maintenance, pour un programme d'entretien. Il s'agit du groupe G25 qui a l'entretien. Et il s'agit également du groupe G4 Zongo, qui est arrêté pour un problème d'exploitation. Le jeu 26, comme le jeu 25 et le jeu 28, les groupes donc Dinga 2 B comme nous appelons, ce sont des groupes sur lesquels nous intervenons assez régulièrement pour remplacer les joints d'arbres. Les joints d'arbres, c'est un joint qui assure l'étanchéité de la machine pour empêcher que les eaux qui traversent la machine pour produire l'électricité ne puissent inonder soit le groupe, soit la centrale. Et du fait donc nous suçons le sable, et c'est ce que nous faisons, nous suçons le sable du canal pour produire l'électricité, du fait de l'entassement des sédiments dans les canaux d'Aménée, eh bien le prix que nous payons, c'est notamment l'usure accélérée de ces joints d'arbres. Et donc il faut les remplacer dès que l'usure atteint une certaine côte, sinon vous allez avoir des catastrophes. Donc là c'est un programme qui est établi et on ne peut vraiment pas s'en passer, il faut le faire, autrement nous avons des dégâts plus importants.
Oui, la décision de la mise en arrêt du groupe 26 inquiète plus d'un, d'autant plus que ce groupe est l'un des groupes les plus importants de Inga 2, hein, qui compte pratiquement 8 turbines. Alors, cette décision ne serait-elle pas suicidaire pour les abonnés?
Pas du tout. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Ces programmes qui a commencé depuis déjà 2 semaines, parce que je vous dis que le jeu 25 lui était à l'entretien et il doit revenir aujourd'hui sur le réseau, et une fois qu'il revient, donc nous devons arrêter le prochain groupe pour faire exactement le même travail. Ne pas le faire, c'est prendre un haut risque d'avoir des dégâts plus importants et qui vont immobiliser la machine pendant longtemps. Et c'est pour cela que nous préférons plutôt communiquer avec nos abonnés pour garantir l'avenir. Mieux vaut manquer l'électricité ou être perturbé pendant 2 semaines que l'être pendant plusieurs mois.
Au regard de la situation qui prévoit actuellement au niveau de Inga 1, Inga 2 ou également Zongo, on se rend compte que le problème est tellement sérieux. Si nous prenons par exemple à Inga 1 où il y a 5 turbines, 4 sont en panne et une seule fonctionne. À Inga 2, 8 turbines, 2 fonctionnent normalement. Une fonctionne avec beaucoup de difficultés et 5 en panne. Et à Zongo, 5 turbines, une seule fonctionne et 4 en panne. En tout cas, nous sommes dans la production en dessous de la moyenne.
J'aimerais plutôt rectifier.
Oui.
À Inga 1, nous avons 6 groupes installés.
6 groupes au lieu de 5.
Actuellement, nous avons 2 groupes qui sont en service. Et il y a un groupe qui est en train d'achever la réhabilitation-modernisation et qui doit venir sur le réseau cette semaine. Et nous avons une autre machine qui est en panne et dont les travaux de réparation ont commencé et qui doit revenir avant fin avril. Donc au total, après tous ces travaux-là, on aura 4 machines sur 6 en fonctionnement d'ici avant fin avril.
Voilà, on va revenir.
Et en ce qui concerne le Inga 2, nous avons 8 turbines, donc 8 groupes qui ont été installés. Nous avons actuellement 5 machines qui sont en fonctionnement.
Qui fonctionnent normalement.
Qui fonctionnent normalement et dont les arrêts, comme j'ai dit, c'est pour des raisons de maintenance et inévitables.
081 890 63 15 pour participer à ce débat.
Parole aux auditeurs.
Confiance, vous êtes à Kinshasa, Patrick à Lubumbashi et Machaka dans la même ville que Patrick. Bonjour Confiance.
Bonjour Mbote, Djambo Moyo à tous les occupants de la radio de la paix.
Bienvenue dans cette émission Confiance. Selon vous, quelle peut être la solution efficace pour améliorer la desserte à travers le pays?
Directement, ma réponse sera très brève. J'ai toujours souhaité la diversification des sources d'énergie dans l'autre. Autonomisation des familles pour la production de leur propre énergie. Et vous permettez que je dise un petit mot sur ce qui a été prévu comme sujet d'aujourd'hui. Mm-hmm. Parce que, vous savez, je suis d'avis que la qualité des services des journaliers n'est pas tributaire, donc la qualité de service de la SNEL n'est pas tributaire du débrayage des agents temporaires. La mauvaise qualité des services et la plupart des résultats est lié au manque de volonté des décideurs. Je ne sais pas, Gilles Lungembo, vous sentez, en tout cas sincèrement, merci beaucoup hein, pour l'invité que vous nous avez apporté aujourd'hui. Vous sentez qu'il a la maîtrise du dossier. Vous sentez qu'il a la volonté. À une personne comme ça, j'hésiterais même pas à faire de lui un ministre de l'énergie. Donc, vous voyez que c'est lié d'abord à la volonté politique des dirigeants. Ces histoires-là, les infrastructures que nous avons, sont des très vieilles infrastructures. Qu'est-ce qu'on a construit après Inga? Donc vous verrez qu'il y a pratiquement rien. Donc le choix des dirigeants, des fois, il est doté d'une absence de contrôle, de suivi, d'impunité. Étant donné que la plupart, soit au devoir et reconnaissance des regroupements ou des cartels politiques qui amènent au pouvoir, ils n'ont pas de priorité. Vous savez, Pierrot, mais vous savez, JR, je ne sais pas si dans ce pays, il y a une réelle politique de l'emploi. Quel est le programme politique réel de l'emploi, de la prévoyance sociale et des gouvernements de société? En principe, la redevabilité, vous voyez, le monsieur d'aujourd'hui parle avec une redevabilité. Remercions quand même certaines choses qui sont en train de changer. J'ai aimé une chose aujourd'hui, j'ai suivi les informations, on nous dit il y aura des perturbations à cause de ça et ça et ça et ça. Est-ce qu'une chose comme ça peut révolter les gens? Non. Mais quand il y a ce manque de redevabilité, vous voyez, il a été redevable, il est venu donner le rapport de ce qui fait que ça ne marche pas. Et quelqu'un comme ça, on peut l'aider, on peut s'associer pour que
alors, c'est une occasion pour nous, hein, Confiance, parce que vous intervenez dans cette émission. La question maintenant, pour l'aider à faire son travail, c'est pourquoi nous avons formulé la question de cette façon-là. Selon vous, quelle peut être la solution efficace pour améliorer la desserte à travers le pays?
Non, vous parlez des journaliers qui ont fait que le service ne soit pas bon, ou seulement d'une manière générale?
Parlez d'une manière générale.
D'une manière générale, moi j'aurais souhaité, comme je l'ai dit au début, de décentraliser la production de l'énergie. On a dépensé beaucoup d'argent pour Inga. Prenez seulement la ratio que vous avez fait au début, le rapport. 70% de la population est dans le noir et privée d'électricité, pendant que 35% le sont, mais d'une manière qui n'est pas régulière. Pourquoi ne pas investir dans les 70 restes pour décongestionner un peu le réseau, permettez-moi le terme. Donc c'est dans ce sens-là. Donc si nous allons dans la diversification de l'énergie, moi j'aurais souhaité que la SNEL ne devienne plus productrice, mais qu'elle ne devienne que gestionnaire. Nous pouvons recourir aux énergies telles que nous pouvons faire, on appelle ça la radioactivité, c'est-à-dire des turbines qui fonctionneraient avec d'autres sources d'énergie, de l'uranium par exemple, que ce que nous avons aujourd'hui. Parce que la SNEL, apparemment, donc le barrage ont montré leurs limites. Donc il faudrait aller à d'autres sources d'énergie qui, bien sûr, ont des risques, mais les autres pays les utilisent.
Merci beaucoup, Confiance, d'avoir appelé. Nous retenons une chose. Vous demandez la décentralisation de la production, que la SNEL garde, en fait, le statut de gestionnaire, et non s'engager dans la production, parce que les groupes en service actuellement ont accusé parfois de accuser leurs limites. Donc, ça ne peut plus continuer. Merci, Confiance, d'avoir appelé. Patrick, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour. Voilà, vous avez la parole, Patrick. D'une manière générale, quand on regarde aujourd'hui la desserte en électricité à travers le pays, selon vous, quelle peut être la solution efficace pour améliorer cette desserte?
Premièrement, nous connaissons très bien que nous, la RTC, notre pays, c'est là où il y a même la chute qui alimente beaucoup de capacités au niveau de l'Afrique centrale ici. Mais la situation qui se passe, premièrement, nous-mêmes qui sommes au Congo, ici, c'est déplorable. Premièrement, les mois qui viennent de passer ici, nous avions suivi la canne dans une situation très difficile qu'on ne peut pas même écouter. On ne peut pas même parler, pardon. Maintenant, ce que je voulais faire, si c'est possible, parce que chaque jour, chaque mois ici, nous payons la facture. Et si c'est possible, là, s'il y a d'autres matériels là qui sont déjà à l'abri, il suffit seulement de payer même des nouveaux matériels là et à essayer un peu de régulariser quand même la situation de la SNEL. Parce que, premièrement, ici, à Lubumbashi, il y a beaucoup de choses là qui ne sont pas seulement à condition qu'il y ait quoi, qu'il y ait l'électricité, qu'il y ait les courants. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire vraiment, c'est très difficile là.
Voilà, merci Patrick. Donc, je comprends que vous parlez de réseau qui est vétuste, il faudrait le réhabiliter et ça demande de moyens. Là, ça appelle quand même la question sur le partenariat, la SNEL avec d'autres personnes. Donc on va revenir sur ça avec notre invité. Machaka, vous êtes dans la même ville, donc à Lubumbashi et au Katanga. Machaka, bonjour.
Bonjour Monsieur Gier, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Vous avez la parole, Machaka.
Merci beaucoup Monsieur Gier de m'avoir accordé cette opportunité. Vous savez Monsieur Gier, ce n'est pas les hommes qui manquent dans notre pays, puisqu'en suivant notre invité, c'est quelqu'un qui prouve qu'il a la connaissance de la matière, mais c'est l'absence de la volonté Monsieur Gier, ça c'est la première chose. La deuxième chose Monsieur Gier, vous savez, l'absence de la concurrence au sein de la fourniture de l'énergie électrique fait aussi que notre gouvernement puisse faire tout ce qu'il veut faire pour la fourniture de l'électricité nécessaire. Puisque aujourd'hui, s'il y avait quand même une société concurrente à la SNEL, je crois que notre gouvernement devrait faire un effort pour améliorer la qualité de leurs services. Puisque aujourd'hui, je ne sais pas si notre gouvernement tient toujours compte de la densité de la population. Les machines là qui sont en train d'utiliser sont des machines nous laissées par les Belges lorsqu'on était encore à 25 millions d'habitants. Maintenant aujourd'hui on est au moins à 65 millions d'habitants. On continue à se servir des mêmes machines. Est-ce que vous croyez que la capacité de ces machines là peuvent suffire toute la population congolaise? Pratiquement impossible, M. Gier. À ce moment-là, ce que je peux proposer, c'est la libéralisation, ou soit la privatisation de l'ESNEL, M. Gier, pour que si cette société-là, la société des services de l'ESNEL est libéralisée, il y a d'autres personnes privées qui commencent aussi à fournir de l'électricité à la population, c'est quoi, dans la notion-là de concurrence, et pousser nos autorités à prendre les histoires au sérieux. C'est la mauvaise foi seulement de nos autorités.
Merci beaucoup, Maître Machaka. Là, ça relance encore le débat sur la libération du secteur de l'électricité qui a été d'ailleurs proposé depuis 1991 par ordonnance présidentielle. Nous reviendrons avec notre invité pour voir un peu le contour et quel est le résultat que cela peut donner. Merci, Maître Machaka. Jérôme, vous nous appelez de Bruxelles, en Belgique. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous...
Oui, merci.
Allez-y. Allez-y.
Oui.
Vous avez la parole.
Allô?
Jérôme, vous avez la parole.
Oui. Oui. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Moi, je trouve que dans ce problème de fourniture d'électricité, il y a trois aspects, il y a trois dimensions. Il y a d'abord la dimension politique. Il n'y a jamais eu une politique d'énergie dans ce pays depuis des années. Donc on n'a jamais prévu le nombre d'habitants, le nombre de la population qui sera peut-être dans 5-10 ans, la quantité de l'énergie qui sera consommée peut-être par rapport à l'industrie et à la population. Il y a aussi la dimension technique. Donc il faut bien faire la différence entre la production de l'énergie et sa distribution. Donc il peut avoir une production suffisante, mais la distribution, quand on a des lignes électriques de haute tension qui datent je ne sais plus de quelle année, quand on a de cabines où on ne sait même pas combien d'abonnés y sont connectés, donc il y a ce problème un problème d'urbanisme, quoi. Donc ce chaos urbanistique où sur une cabine, même l'ASNEL ne connaît même pas combien de personnes sont connectées. Donc, c'est ce qui est encore très, très grave, je trouve. Mm-hmm. Et puis, il y a un aspect psychologique aussi de la part des dirigeants. Je suis désolé de le dire, mais la plupart des dirigeants actuels sont des personnes qui n'ont jamais connu l'électricité ni l'accès à l'eau pour l'eau dans leur habitation. Et donc, si le peuple aujourd'hui n'en a pas, ce n'est pas leur problème. Ils vont penser directement à utiliser la lampe tempête ou aller puiser l'eau au fleuve ou à la source. Donc pour moi, c'est un peu ça, donc cette volonté politique aussi de faire quelque chose. Et cette volonté n'y est pas. Et il y a un aspect, pour moi, psychologique dans cette volonté de faire quelque chose de correct pour la population, croyant que si la population a de l'électricité, c'est une faveur. Non, ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Et donc, on oublie souvent ça. Voilà, c'était un peu mon intervention.
Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir appelé de Bruxelles. Théodore, vous êtes à Mbujimayi. Bonjour.
Bonjour et merci pour la parole.
Voilà, Théodore, vous avez suivi vos prédécesseurs. Peut-être que vous avez un élément nouveau à ajouter par rapport au débat du jour ou si vous soutenez leurs avis.
Bon, parce que je n'étais pas à côté de la radio, je suis en route quelque part. Je sais que beaucoup d'émissions ont été organisées ici. Nous avions décrié pour que la SNEL prenne ses responsabilités pour rendre la qualité en des secteurs d'énergie efficace. Pour ce qui est de notre ville de Mbujimayi, par exemple, nous avions dénoncé la mauvaise façon de distribuer du courant par la société Hydroforce. Cela a été fait avec l'appui de la société civile aujourd'hui. L'ANIBA a repris la gestion du courant. Bon, en tant que fils de Mbujimayi, moi, ABG, excusez-moi, j'interpelle la SNEL sur le patronage de l'ANIBA d'électrifier les grands acteurs de la ville de Mbujimayi. Parce que le banditisme vraiment fait rage ici. Et puis nous demandons aussi à la SNEL de privilégier la régie des eaux pour que l'eau ne cesse de couler au robinet. Parce qu'au moment où nous parlons, les robinets sont toujours secs. Et enfin aussi, pour la SNEL, il doit réduire les prix d'abonnement et les factures même, afin de permettre aux plus démunis, des petits peuples, d'avoir l'accès facile au courant électrique.
Voilà, parce que vous parlez de la ville de Mbujimayi, c'est vrai qu'on reviendra avec notre invité de ce partenariat, sur le partenariat entre la SNEL, Régie des Eaux, MIBA et une multinationale ABB pour le soutirage sur la ligne THTCC, Inga Kolosi. Donc on va revenir sur ça, Théodore, pour avoir un peu plus d'éclairage. Et on termine cette première série des auditeurs avec Jérôme qui est à Kinshasa. Jérôme, bonjour.
Bonjour, je voudrais d'abord féliciter l'ADG de la SNEL parce qu'il commence à comprendre qu'il faut communiquer. La SNEL a une grande faiblesse, c'est la communication. Il faut éduquer la masse, comment on utilise l'énergie et tout. Il y a beaucoup de désordres qui se passent parce que les gens sont sous-informés. Alors, moi, la première question que je vais poser à l'ADG est celle de savoir qu'est-ce que la SNEL fait avec les millions de dollars, un million de dollars, que le gouvernement met à sa disposition depuis 2 mois déjà. Parce que le gouvernement a décidé de débourser chaque mois 1 million de dollars pour la SNEL, 1 million de dollars pour la Régie des Eaux, en guise de subvention paiement, c'est-à-dire l'État doit beaucoup d'argent à la SNEL, mais comme l'État ne peut pas payer en une fois c'est beaucoup d'argent, le gouvernement a décidé de débourser chaque mois 1 million. À quoi cet argent est affecté au niveau de la SNEL? Deuxième question, la décentralisation, parce qu'il y a 3 étapes dans la production de l'énergie. Il y a la production, il y a le transport et la distribution. Au niveau de la distribution, on a des sérieux problèmes. Où est-ce qu'on en est avec les négociations entre la SNEL et la Banque mondiale, notamment en ce qui concerne cette décentralisation-là pour desservir la population? Et enfin, est-ce que au niveau de la SNEL, il y a une politique qui vise à recourir aux énergies renouvelables? Parce que on a comme l'impression que Inga est là, tout le monde vante Inga, on a beaucoup de centrales, mais curieusement, la population n'arrive pas à accéder à cette énergie-là qui coûte non seulement très cher, mais qui n'est pas toujours disponible quand on en a besoin. Merci.
Merci Jérôme, c'est quand même de vous rappeler de Kinshasa 081-890-6315 pour participer à ce débat.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons à vous, Monsieur Ladé. Vous avez suivi les uns et les autres, les inquiétudes qui tournent autour de déficit aujourd'hui de la fourniture en électricité à travers le pays, si on peut résumer ainsi. C'est vrai que les uns ont parlé par rapport à leur passion, mais quelle est la réponse que vous réservez, en tout cas, à toutes ces préoccupations?
D'abord, je félicite tous les intervenants parce que je me rends compte que ils ont vraiment le dossier sur leur cœur. Mais ce qu'il faut noter, il ne faut pas oublier l'histoire de notre pays. Notre pays a été sous exploitation et l'électricité qui était au fait l'énergie nécessaire pour l'exploitation n'avait d'intérêt que pour l'industrie. Et donc vous verrez que toutes les centrales électriques qui ont été construites dans le pays ne visaient que l'industrialisation. et on ne pensait pas à la desserte de la population. Maintenant, il ne faut pas oublier également qu'à partir des années 90, notre pays a été en rupture de coopération internationale, n'avait plus l'accès à des capitaux frais, parce que comme vous le savez, l'électricité demande beaucoup de moyens financiers, ça se compte en milliards de dollars. Donc à partir de 90, on va y avoir cette rupture et il n'y aura plus d'installations électriques construites dans le pays. Il faudra attendre donc les années d'aujourd'hui, avec les autorités politiques d'aujourd'hui, pour repartir sur les grosses infrastructures. On parle aujourd'hui des Ombre 2, 150 mégawatts, on parle des Kakobola, on parle des Katende, on parle bien d'autres installations qui vont arriver. Il y a la reprise, notamment,
avec la Banque mondiale, avec les travaux.
Avec la FMI. Et ce n'est pas de l'histoire que je raconte. Ombre 2, la centrale est en construction. Vous savez, un barrage hydroélectrique ne se construit pas en un mois, il faut 3 ans pour le construire. Ceux qui veulent visiter Zongo, ils s'en rendent compte. Kakobola, de même. Et donc, je disais, et la ligne, par exemple, qui alimente Inga Kinshasa, qui est saturée depuis plusieurs années, aujourd'hui, il y a la construction de la deuxième ligne. Et c'est une réalité. Si vous allez dans le Bas-Congo aujourd'hui, vous verrez que sur 682 pylônes de cette nouvelle ligne à 400 kV, eh bien, il y a déjà 180 pylônes qui sont réalisés. Et en principe, à la fin de cette année, cette ligne sera terminée. Donc, il y a des projets aujourd'hui qui sont initiés. Je vous dis qu'il y a un projet qui est également en gestation aujourd'hui sur Rosy 3 avec le gouvernement de la République démocratique du Congo et ses voisins. Et ces projets vont arriver. Nous avons aujourd'hui à Kisangani une nouvelle machine qui vient d'être remplacée à Tchopo et cette machine est en service. Et ça, ce sont des actes qui sont posés aujourd'hui. Il y a un auditeur qui a dit Inga a été construit, c'est vrai qu'il n'y a pas de politique. Non, je dois vous dire sincèrement qu'il y a aujourd'hui une politique du gouvernement qui veut qu'en 2016, qu'on puisse doubler les taux de desserte. Vous savez, contrairement à ce qu'un auditeur a dit, les taux de desserte aujourd'hui est de 9%, donc moins de 10%. En réalité, si nous sommes 70 millions de Congolais, il n'y a que 7 peu moins des 7 millions qui ont accès à l'électricité.
Et pourtant, le document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté veut que d'ici 2015, on puisse atteindre 12,5.
Nous allons doubler les taux de desserte, donc ce sera autour de 20%. Et d'ici 2016, et cela demande 8 milliards de dollars qu'il faut injecter dans le secteur électricité. Et je crois qu'on va y arriver. Il y a un auditeur qui dit que pour mieux organiser le secteur électricité, il faudrait décentraliser les activités pour ne pas avoir le même opérateur. C'est vrai que avec 2,5 gigawatts de puissance installée que gère la SNEL, aujourd'hui, il y a près de la moitié qui est indisponibilisée pour des raisons de vétusté et qui des installations qui réclament d'être réhabilitées et modernisées. Je dois vous dire déjà tout de suite que de ce fait, évidemment, la desserte ne peut pas être quantitativement et qualitativement acceptable. Et là, il faut noter que la SNEL, comme société aujourd'hui, n'est plus une entreprise publique. C'est une société commerciale. Vous savez qu'il y a une transformation qui est en cours. Et la volonté du gouvernement, c'est de faire de SNEL une société à profit. Une société qui est gérée comme une société privée, de telle manière à répondre des résultats. Et on va y arriver, c'est un processus qui demande d'abord, un, de pouvoir revaloriser les infrastructures qui gèrent la SNEL, et c'est pour cela qu'il y a des programmes de réhabilitation et de modernisation qui sont en cours. En même temps également, c'est de donner à SNEL l'outil nécessaire de gestion. Et il y a des programmes qui sont en cours dans ces cadres-là. Il faut évidemment rajeunir le personnel SNEL, il faut refaire toutes les valeurs morales, l'éthique, etc. Et on y arrive.
Parce que vous avez parlé de rajeunir le personnel, nous avons tous suivi la semaine dernière les journaliers, en tout cas qui ont pris d'assaut la direction générale, réclamant tous en tout cas la régularisation de leur statut. Comment comptez-vous régler ces soucis, ces contentieux?
Il faut faire la part des choses. La loi permet de pouvoir utiliser une personne pendant un temps et s'en libérer. Et lorsqu'on le fait conforme à la loi, il n'y a pas d'abus. Et donc là, on n'a aucune obligation d'engager une telle personne. Par contre, là où on a utilisé une personne abusivement, eh bien là, on est forcé de trouver un règlement. Et nous, SNEL, pour ce qui est des utilisations abusives de personnel, qu'on appelait des temporaires ou des journaliers, eh bien, il y a déjà des règlements que nous sommes en train de mettre, que nous sommes en train de conclure. Nous l'avons fait dans le Bas-Congo, dans le Cataract. Nous l'avons fait, nous sommes en train de le faire dans l'ensemble du Bas-Congo. S'agissant de ceux de Kinshasa, en réalité, SNEL n'a aucun litige de travail à Kinshasa.
Parce que c'est nos employés de la SNEL, ce sont eux qui gèrent au quotidien. Hein. Nous les voyons dans tous les quartiers, ils manipulent les réseaux, ils donnent le courant à ceux qu'ils veulent, et bon voilà, ils coupent quand ils veulent.
C'est vrai que je dois reconnaître que nous avons commis une erreur de recourir à des gens qui n'ont pas de contrat avec nous et qui n'ont aucune responsabilité. Mais ce sont des actes que nous avons posés il y a un certain temps. Maintenant, il faut corriger le tir. Et vous savez qu'on ne peut pas, une société qui se veut florissante et bien gérée, ne peut pas, doit tenir compte des équilibres entre le charge sociale et le revenu et les chiffres d'affaires de l'entreprise. Donc il est aujourd'hui hors question de pouvoir penser engager 3000 personnes à la SNEL. On est déjà 6000, on est déjà 7300, on va arriver à une catastrophe. Donc il y a un plan de recrutement prioritaire qui tient compte du niveau d'activité d'entreprise qui est en cours. Et qui doit équilibrer évidemment le chiffre d'affaires de SNEL et ainsi que les charges.
On va revenir sur la question tout à l'heure de Jérôme, le 1 million que vous donne le gouvernement, comment cet argent est utilisé et pour vous voir la desserte, mais il est temps d'accorder la parole à la deuxième série des auditeurs, Papa Samy qui est à Songololo, Stoyen à Lubumbashi et Niembo à Kalima. Papa Samy, bonjour.
Bonjour, bonjour, Lise.
Voilà, vous avez la parole, Papa Samy.
Bon, je voudrais intervenir sur trois points. D'abord, l'aspect politique. Sur ce point-là, il faut que la SNEL soit libre, donc indépendante de la politique du Congo. C'est-à-dire que les autres politiques ne peuvent pas avoir la même mise sur la gestion de la SNEL. Nous avons un mauvais souvenir. L'argent qu'avait versé le Congo Brazzaville pour la consommation de l'énergie, il y a quelqu'un...
Papa Samy, s'il vous plaît. Papa Samy, vous me suivez, Papa Samy?
Écoute.
Oui, écoutez, nous restons dans les sujets, la fourniture, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, la desserte, que faut-il faire pour améliorer, n'est-ce pas? Ne revenons pas sur les choses déjà passées, ok? Mais oui. Que vous proposiez de solutions qui peuvent alors améliorer la situation actuelle.
Oui, d'abord la gestion. Il faut que la SNEL revoie sa gestion. Si je n'ai pas de gestion... tel que dans mes quartiers de ce matin, il suffit qu'un fil cède pour être raccordé, il faut que la population cotise. Alors que la SNEL doit prendre ses responsabilités, puisque même l'abonnement que nous avons, la police d'abonnement, on dit bien que les fils, même si c'est vous qui avez acheté cela, il faut que l'énergie circule sur ces fils-là, ça appartient à la SNEL. Alors si la population ne paye pas le fil, vous pouvez faire deux mois, un mois, vous n'avez pas d'énergie. Alors, l'accès, un nouveau abonné, comme l'ADG là, je vous pose la question. On vous donne un devis, vous versez l'argent, vous payez tous vos matériels vous-même. Mais là, cet argent que nous versons à l'ESMEL, à quoi ça sert? Puisque, étant technicien, on sait que quand on vous donne un devis, ça signifie que le bien vous devez acheter pour que vous puissiez réaliser un travail. Mais, on verse l'argent comme un devis, on ne vous donne rien, et vous achetez vos biens vous-même. Donc ça aussi c'est un problème. Bon. Dernièrement, je voulais dire la facturation. Il y a le système de laissage. Le laissage, par mois, vous consommez seulement 3 jours ou 4 jours durant tous les mois, mais vous avez une facture tout entière à payer à l'ESMEL. Et le courant qu'on reçoit, vraiment c'est de mauvaise qualité. Alors, c'est pourquoi je voulais dire qu'il faut que l'ADG qui est là, que je connais très bien, il puisse peser de son poids à ses collaborateurs. On améliore la situation de l'énergie. Puisque l'énergie, ce n'est pas une faveur ou bien un luxe, c'est tout le monde qui a besoin de l'énergie électrique. Voilà mon intervention.
Merci beaucoup, Papa Samy, d'avoir appelé de Songololo au Bas-Congo. Stoyen, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, M. Jérôme.
Voilà.
Bonjour, cher à tous les députés de la
Oui, Stoyen, selon vous, quelle peut être la solution efficace pour améliorer la desserte à travers le pays?
Merci beaucoup. Il y en a plusieurs listes de solutions. Premièrement, qu'on puisse d'abord suspendre les systèmes de mettre les gens au contrat, donc rester pour quelques mois ou une année, après on change, on met d'autres personnes, les agents. Mais plutôt, c'est mieux d'engager, de commencer à engager, puisque quand tu es engagé pour un durée indéterminée, il va commencer à travailler avec tout son amour, le travail, toutes les tâches qu'il a, qu'il doit exécuter. Donc, la solution que l'invité a donnée là-bas, c'était pour moi une solution que ce serait une entreprise à caractère commercial. Mais qu'elle soit encore une entreprise à caractère commercial autonome. Ce qui veut dire des millions de dollars qui est payé par des États voisins qui utilisent notre électricité. Commencer qu'elle soit directement destinée dans la caisse appropriée de la SNEL. De trois, aussi d'améliorer la qualité de l'énergie, puisque dans cette ville ici à Lubumbashi, il y en a des gens qui ne veulent plus s'abonner parce que la qualité de l'énergie servie aux populations n'est pas une meilleure qualité. Imaginez, vous pouvez faire dans 30 jours, vous avez des courants, ce qu'on appelle les courants efficacement, peut-être c'est 3 jours. Et les autres jours là qui suivent, vraiment, ce ne sont pas même du courant là. L'éclairage qui était passé même par la lampe tempête. En tout cas,
la qualité de la
vie. Autre question.
Oui, allez-y rapidement, parce qu'il y a un dernier mot qui. Oui, allez-y rapidement.
Dernière question. Bon, nous voyons que Lubumbashi, on est en train de construire des stations, mais il y a quelques promesses faites que les stations construites ici, ça va desservir à la population. Mais nous voyons ces stations-là, les populations n'ont rien à gagner avec ça. Mais il faut que des entreprises minières qui sont desservies avec les différentes stations construites. Maintenant, ces stations-là resteront toujours pour desservir les entreprises et la population là qui reste dans le noir, qui ne sont pas bien desservies. Maintenant, monsieur le DG, quel est votre avis par là? Puisque ce sont aussi les moyens si la population est bien desservie. Il va commencer à payer correctement sa facture.
Merci beaucoup, citoyen. Parce que c'est une question directe, on la pose directement à M. Ladé qui nous suit, la question du Katanga, qui vient juste la toute dernière. La toute dernière question.
Oui, c'est vrai que il a appelé sa station, en fait, c'est des postes, nous appelons aux postes haute tension que nous sommes en train de construire au Katanga. Ça ne vise pas. Et ça, je dois clarifier, ça ne vise pas les industriels, bien au contraire. Le poste NR Kasapa qui est à l'entrée de Lubumbashi, quand on venait de l'aéroport, nous sommes en train de mettre en place un injecteur moyenne tension pour pouvoir desservir la population. Il y aura 50 MVA que nous allons desservir à la population congolaise. Il se souviendra également que dans la commune des Katouba, il y a quelques temps, nous venons d'inaugurer un nouveau poste. Eh bien, celui-là est dédié totalement à la population congolaise de Lubumbashi.
Alors là, ça me pousse à poser la question sur le partenariat dans les secteurs. Hein, avant de revenir sur la question de 1 million que le gouvernement met à la disposition de la SNEL, aujourd'hui, c'est vrai, certaines entreprises produisent, distribuent et vendent de l'électricité aux tiers à travers le pays. Je ne sais pas, c'est par rapport au partenariat. Il y a un auditeur qui a cité l'Hydroforce du Congo qui fait ce travail. Nombre de ces entreprises ont également cité EDC. Alors, où en est-on avec ces partenariats et comment fonctionnent ces partenariats aujourd'hui?
Nous, SNEL, nous sommes dans le partenariat public-privé. Nous avons déjà une expérience depuis de près de 7 ans dans ce secteur et nous avons près de 600 millions que nous avons empruntés auprès de privés pour des projets SNEL. Ça se passe particulièrement au Katanga dans les secteurs miniers, mais ça se passe également à Kinshasa. Où donc des privés mettent de l'argent à disposition des SNEL pour développer des projets. Nous avons actuellement signé des accords particulièrement avec des privés pour la ville de Matadi, pour la ville de Kinshasa, pour la ville de Lubumbashi, et d'autres accords sont signés pour la ville de Kolwezi, de Likasi, avec des privés pour l'électrification du pays.
Et ces partenariats, pour quelle priorité, pour quelle finalité?
La priorité, comme vous l'avez entendu être décrié par les auditeurs, c'est améliorer la qualité. Améliorer la qualité suppose, un, d'avoir des installations de bon niveau, et des capacités suffisantes pour produire, transporter et distribuer l'électricité. Lorsque les gens s'en prennent à la qualité, et quelquefois ils oublient que tout le monde veut avoir l'électricité, et bien souvent sans respecter les règles de l'art. Ben, l'électricité c'est un produit. Quand l'électricité n'est pas produite, transportée, distribuée, commercialisée en dehors des normes, eh bien, on a justement des désagréments, notamment sur ce qu'on appelle la chute des tensions. La chute des tensions, c'est quoi? C'est que les gens sont en train d'appeler une quantité plus importante que celle que le câble peut transporter. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle de chute des tensions. C'est comme exactement dans les canalisations d'eau, vous avez des manques de pression. Parce que vous avez tellement allongé la tuyauterie de l'eau, eh bien la pression n'est plus suffisante, donc vous n'avez plus que des gouttes d'eau. Donc normalement, ce qu'il faut faire, c'est augmenter la capacité au niveau de la production d'eau, augmenter la capacité des transports d'eau, et donc à ce moment-là, on peut distribuer des plus grandes quantités et sur un rayon d'action plus large. Et donc c'est la même chose au niveau de la SNEL. Il faut augmenter la capacité de nos installations pour pouvoir avoir un rayon d'action plus grand et atteindre les gens dans les normes. Donc, la tension normale, et les gens appellent la quantité d'électricité qu'il faut, et pas la quantité d'électricité qui est excessive et qui dépasse même le besoin normal. Lorsque les gens utilisent des mauvais appareils, eh bien, on arrive également à perturber, à détériorer la qualité de la desserte. Par exemple, quelqu'un qui a un gros moteur, mais pour une charge tout à fait réduite, eh bien, il va à générer des pertes techniques qui auront pour incidence de pouvoir détériorer les plans de tension. Donc, nous devons investir suffisamment dans la quantité de produits à transporter et à distribuer. Nous devons investir également dans la qualité des réseaux de distribution.
Raison pour laquelle le gouvernement a disponibilisé chaque mois donc 1 million de dollars pour la SNEL. Comment gérez-vous cet argent?
Voilà. Donc, l'argent que nous recevons du gouvernement depuis l'année passée, il faut l'avouer, vient couvrir en fait nos plans d'action, vient couvrir nos plans d'action. Et ce que nous sommes entendus avec le gouvernement, c'est que nous dressons une liste des actions prioritaires. Et les gouvernements, donc, nous payent, comme vous l'avez dit là, les millions, au minimum, c'est un minimum en fait, que le gouvernement a arrêté, et que le gouvernement est prêt justement à couvrir des actions pertinentes par rapport évidemment à ces moyens. Et donc là, il y a un cadre qui est mis en place et qui permet donc.
Parmi ces priorités, entre autres, travailler sur les convertisseurs qui posent énormément de problèmes au niveau des INGA.
Mais non, ce qu'il faut noter avec les convertisseurs, c'est que nous sommes sur un programme qui est financé par la Banque mondiale avec une contrepartie de SNEL. Et actuellement, sur un pôle, nous avons les 2 convertisseurs à INGA et à Colusi qui sont déjà modernisés. C'est vraiment modernisé et c'est ce qui est en service aujourd'hui. Maintenant, nous sommes en train de travailler sur le 2e pôle où les 2 convertisseurs vont être modernisés. Maintenant, il restera à remplacer les transformateurs des convertisseurs. Et là, nous sommes en contrat avec un privé qui va justement fournir tous les transformateurs pour pouvoir avoir maintenant augmenté la capacité de ce qu'on peut injecter au Katanga. Donc, on va passer de 500 à 1000 mégawatts qu'on pourra injecter demain au Katanga.
Est-ce que le problème qui s'est posé au niveau des convertisseurs, chaque fois qu'il y avait des courts-circuits quelque part, et ça affectait également les machines, ce problème est résolu aujourd'hui?
C'est qu'il faut noter
le passage de l'analogie à numérique.
Disons que c'est les problèmes tout à fait autres. C'est un problème qui est lié à l'exploitation des systèmes électriques. C'est qu'on appelle des vases communicants. Donc, vous savez, les Katanga est relié à Inga à travers la liaison courant continu. Donc, les problèmes qui surgissent au Katanga, dans les réseaux du Katanga, peuvent avoir un impact sur la liaison courant continu et donc sur Inga. Et là, nous sommes en train de stabiliser le système. Nous avons mis au point le système de protection qui était défaillant. Et nous avons également mis des automates. Nous avons réajusté nos automates pour que chaque fois qu'il y a une perturbation au Katanga qui influe sur les courants continus, que nous puissions stabiliser Inga. Donc l'objectif, il ne faut pas perdre Inga. Et là, on y arrive effectivement. On a eu déjà plus de, d'une douzaine d'incidents où on a eu un bon comportement.
Et le tout dernier, c'était avec le coup de foudre même au niveau de Kimwenza, qui affectait quand même aussi. Hein,
mais c'est tout à fait normal. Vous savez, dans les systèmes électriques est conçu tel que quand il y a un coup de foudre qui tombe sur la ligne, eh bien, il faut sécuriser, c'est-à-dire qu'il faut vite...
Tout comme ça a été dans le noir.
Bien sûr, c'est-à-dire que si vous ne coupez pas automatiquement, c'est pas un homme qui fait ça, ce sont des automates de protection qui font ça, si vous ne coupez tout de suite, vous allez avoir des dégâts. Donc, ce qu'on fait, on coupe et on réallume automatiquement. Maintenant, quand on réallume, si le défaut n'est pas éliminé, eh bien là, il faut couper totalement.
Niembo nous a rejoint, Sami Amagi, Dr Bintou à Beni. Bonjour Niembo. Bonjour Soupi Niembo. Voilà, on prend plutôt Samy qui est à Mahagi. Samy, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, je suis à l'UNJR, bonjour.
Oui, Samy, vous avez suivi vos prédécesseurs, vous avez à votre tour la parole.
Merci beaucoup pour la parole, JR. Je salue également l'invité. Je voudrais de prime abord vous dire que je voulais aborder cette question, pas seulement à Mahagi, mais je voulais prendre l'ensemble des districts de l'Ituri, puisque vous savez, les problèmes d'électricité posent un... c'est vraiment un problème très, 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 très sérieux ici à Ituri. Par exemple, prenons la ville de Bounia, qui attend de devenir demain le chef-lieu de la province, de la future province de l'Ituri, qui n'a même pas d'électricité où on peut compter moins de 5% de personnes qui sont desservies par le gaz. C'est un problème sérieux. Revenons maintenant dans tous les districts. Vous avez la cité de Kassigny qui n'a pas d'électricité. Vous avez Tchoumia et partout. Donc, disons même que l'électricité n'existe pas à Ituri. Et si nous revenons chez nous ici à Mahagi, c'est encore pire. Les gens sont contraints, en fait, à payer, à débourser par jour près de 5 dollars pour avoir de l'électricité. Et cette électricité, où est la source? Ce n'est pas l'électricité de la SNEL. Je tiens d'abord à féliciter les privés qui se sont mis à desservir la population parce que grâce à eux, notamment l'établissement Kilomoto, Mahagi a quand même de l'électricité, on peut quand même avoir accès à l'Internet, on peut quand même avoir accès, on peut avoir aussi la possibilité de pouvoir suivre la télévision. Sinon, ça serait catastrophique. Et là, alors, ça pose un problème. Je voudrais demander à l'éviter, parce que vous savez, chez nous, ici, en Ituri, nous avons des anciens barrages, nous avons des centrales qui existaient déjà avant, à l'état de la centrale hydroélectrique de Boudana, ainsi que de Solenyama. Je voulais savoir s'il y a un programme vraiment pour qu'on essaie un peu de réhabiliter ces centrales-là, mais sinon, qu'on nous dise, puisque le gouvernement nous avait promis à un moment donné que ces centrales seraient réhabilitées. Je ne sais pas où en est-on aujourd'hui. Et puis, toujours concernant la SNEL, je suis passé à Bukavu où j'ai vu la centrale hydroélectrique de Ruzizi 1 et 2 en train de servir les pays étrangers, notamment le Rwanda, le Burundi et même la Tanzanie. Je me demande si à Mahagi, on peut, grâce à un partenariat, donner aussi la chance pour qu'on puisse avoir de l'électricité, parce que juste à côté de nous, ici en Ouganda, les gens sont servis 24 heures sur 24 en électricité. L'ADG de la SNEL peut nous dire, est-ce qu'il y a un partenariat pareil qui est envisagé dans les jours à venir?
Merci Samy. Docteur Bintou, vous êtes à Beni. Bonjour.
Bonjour M. JR, et bonjour à tout le monde et à notre invité.
Vous avez la parole.
Ok, j'avais des petites questions à poser un peu à notre invité. La première question, pourquoi la province du Kassai oriental et celle du Kassai occidental, par lesquelles passent les courants, n'ont jamais bénéficié du tirage du courant pour servir ces deux provinces en électricité? Et qu'est-ce qui est plus coûteux entre construire un autre barrage à Kokobola et tirer le courant de Chimbulu qui passe par le Kassai? Une petite autre question, la population parle qui habite dans les milieux où on exploite, où il y a des barrages. Par exemple, dans mon village, à Chitolo, il y a que c'est le village qui alimente la province du Kassai oriental avec les barrages de Chidila, de Tchala. Mais ce village-là se trouve toujours dans les noirs. Chaque fois que nous passons là-bas, on nous demande, mais c'est le système de torches qu'on est en train de faire ici, ça veut dire que vous éclairez devant, mais vous-même vous êtes dans l'obscurité. Pourquoi ce village là ne bénéficie absolument de rien? Deuxième question, c'est par rapport à la ville de Kinshasa, la qualité du courant dans certaines de nos communes. Nous laisse souvent à désirer. Pourtant, en 2003 et 2005, la Banque mondiale avait financé le projet de la distribution de l'énergie dans la ville de Kinshasa. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent et qu'est-ce qui reste à faire? Troisième petite question, ici à Beni, le chef de l'État avait promis le courant à la ville de Beni. Quelle est la suite jusqu'à ce jour? Quelques travaux nous avions vus vers les années entre 2006 et 2007 qui avaient commencé, que le courant devait être soutiré à partir de Kampala pour arriver à Beni. Or, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui se fait. Qu'est-ce qui bloque le projet? Étant donné que ce projet la traîne, est-ce qu'il n'y a pas moyen de penser à ce qui est l'énergie solaire? Puisque c'est l'obscurité qui engendre aussi l'insécurité dans plusieurs points de notre pays, et c'est pratiquement ici à Beni.
Merci beaucoup, docteur Bitou. Je reviens à vous, monsieur Ladé. Vous avez suivi les uns et les autres. Voilà, on peut peut-être commencer par répondre à cette question directe de docteur Bitou.
Oui, docteur, pourquoi est-ce que le Kasaï et les deux Kasaï ne profitent pas de la ligne courant continue qui existe depuis les années 80, 82, 85, alors que cette ligne courant continue traverse les deux provinces? C'est vrai. À l'époque où cette ligne a été conçue, donc le courant continu, à cette époque-là, le soutirage n'était pas encore maîtrisé et il coûtait extrêmement cher et réclamait des moyens de télécommunication assez sophistiqués. Aujourd'hui, cette technologie-là est maîtrisée. Maintenant, faut-il faire les soutirages ou plutôt favoriser les centrales hydroélectriques? En tout cas, le choix qui est fait aujourd'hui par le gouvernement, c'est par les centrales hydroélectriques. Vous savez, c'est plus simple et c'est plus facile à contrôler la gestion d'un système qui est alimenté à partir d'une centrale hydroélectrique que plutôt un système long. Vous savez que le courant continu est long de 1700 km et nous comptons y injecter une puissance importante qui va aller jusqu'à 1000 MW. Il serait plus simple de le gérer de pointe à pointe que plutôt d'avoir un soutirage. Et nous pensons donc ici que la solution de la centrale hydroélectrique est meilleur. Maintenant, j'ai entendu des auditeurs qui disaient qu'on ne devait pas simplement se contenter de l'hydroélectricité, qu'il fallait diversifier les sources. Ils ont certainement raison, mais il faut se rappeler que notre pays a un potentiel de 100 000 MW. Et donc, on ne pourrait vraiment pas déconsidérer un tel potentiel. Et donc, la stratégie d'électrification du pays devait être basée sur l'eau. Parce que vous savez que notre pays est traversé par divers ruisseaux, diverses rivières et les fleuves, le grand fleuve. Et donc, on devrait vraiment penser aux micro-centrales notamment. Mais de même, le pays est couvert complètement par le soleil. On ne peut pas aujourd'hui négliger l'énergie solaire. Et d'autant plus que la technologie a évolué et que les coûts aujourd'hui peuvent être maîtrisés. Effectivement, en ce qui concerne SNEL, nous sommes aujourd'hui en partenariat avec des groupes internationaux pour des projets d'alimentation des localités, des agglomérations, des villages à partant de panneaux solaires. Donc on va y arriver. Les villages qui sont dans le noir alors qu'ils sont à proximité des centrales hydroélectriques, ce qu'il faut noter, comme je l'ai dit auparavant, bien souvent nos centrales qui étaient érigées à l'époque coloniale ou après l'indépendance ne visaient que l'exploitation industrielle. Et bien souvent ces centrales n'ont pas la capacité suffisante pour pouvoir couvrir les villages. Et donc aujourd'hui, ça devait être une détermination pour soit augmenter la capacité de ce qui existe, ou sinon alors recourir à d'autres ressources comme vous l'avez proposé, notamment les panneaux solaires. La qualité de cette acquine, on y a parlé. Et c'est vrai qu'il y a des projets qui ont été retenus sur le financement de la Banque mondiale, mais il faut également ajouter la Banque africaine de développement. Eh bien, ces projets aujourd'hui sont en cours. Et aujourd'hui, je peux vous annoncer, par exemple, le poste de Kimbanseki à Kinshasa, qui va être construit et qui va être achevé à la fin de l'année. Je peux également vous annoncer que toutes les poches noires de la ville de Kinshasa sont couvertes par ces projets financés par la Banque africaine de développement et la Banque mondiale. Il y a notamment le poste qui va être érigé à Sanatorium, dont nous sommes à Makala, et qui va donc couvrir, qui va arroser toute la partie de cette ville. Donc, toutes les poches noires vont être couvertes et à Kinshasa, il n'y aura plus de poches noires avec tous ces projets qui commencent.
Oui, monsieur Ladé, juste une question de curiosité rapidement. On a senti qu'il y a plusieurs projets pour répondre à plusieurs défis, c'est vrai, auxquels fait face aujourd'hui la SNEL. Mais le plus simple, c'est-à-dire la vétusté du réseau, quand on en parle, on fait allusion aux câbles électriques qui sont dénudés aujourd'hui à travers la ville. Mais quand on va à la SNEL, on nous signale toujours qu'il y a une rupture des stocks.
Oui.
Et depuis 5 ans, on parle que le même langage, rupture des stocks.
Voilà. Je vous dis une chose. Nous avons fait une investigation en 2011 pour faire disparaître ces câbles qui sont source d'électrocution dans la ville de Kinshasa. Eh bien, il fallait 80 millions de dollars. Maintenant, quels que soient les stocks que nous pouvons réunir, eh bien, les besoins sont tellement importants que ces stocks arrivent à être complètement éteints. Et évidemment, quand nous parlons stock câble, quand nous parlons, on parle argent. Et quand nous parlons argent, il faut maintenant situer quelles sont les capacités de SNEL sur fonds propres à faire face à ce genre de projets qui sont des projets d'investissement. Cette capacité est pratiquement nulle. Et donc, vous devez comprendre pourquoi, notamment, le gouvernement vient à notre rescousse et pourquoi nous allons vers des privés en partenariat. Et là, je vous annonce que nous sommes en train de construire un partenariat avec un privé pour justement remplacer tous les câbles vétustes dans la ville de Kinshasa. Et ça, ça demande des gros capitaux. Si vous voulez les chiffres, il faut 350 millions de dollars pour arriver à remplacer tous ces câbles vétustes. Augmenter la capacité du réseau de distribution, cabines, câbles, etc. Et ça, ça demande beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, sur fonds propres, SNEL ne peut pas, mais SNEL aujourd'hui travaille avec les banques commerciales de la place.
Monsieur Rick Mala, si vous permettez, on va conclure avec vous dans 2 ou 3 minutes. Et nous demandons à Roger qui est à Lubumbashi, à Madame Gertrude qui est à Kinshasa, d'attendre. Juste après le flash, nous allons poursuivre cette émission.
Parole aux auditeurs pour participer 081. 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous poursuivons avec parole aux auditeurs. Roger, vous êtes à Lubumbashi, Madame Gertrude à Kinshasa. Bonjour Roger.
Bonjour la Radio Kapi, bonjour tout le monde.
Et bonne année.
J'ai une petite préoccupation parfois à demander à votre invité.
Oui, allez-y.
Je voudrais savoir si la population, donc la population congolaise souffre de l'électricité. On connaît bien que dans la population congolaise, il y a une petite partie de la population qui est servie à l'électricité. Et cette population en souffre. Alors, quelle sera la réaction pour les autres qui n'en ont même pas? Si on peut quand même trouver des solutions pour les autres qui n'en ont même pas. Si la population même qui en a souffre et les autres là qui n'en ont pas, oui, c'est là
le... Voilà, Roger, vous avez pris un cours, hein, un début d'ailleurs de cette émission, nous l'avons dit, le taux de desserte est trop faible et l'autre invité a même reconnu qu'il y a un travail de fond qui est fait à ce niveau pour arriver d'ici 2015 à doubler les taux de desserte actuels. Donc je crois que la réponse a été donnée, mais une chose est vraie que 35% de desserte, le taux de desserte en milieu urbain où vivent près de 30% de la population contre 1% en milieu rural, où vivent ces 30% de la population congolaise, selon les informations que nous avons. Merci Roger. Madame Gertrude, vous êtes à Kinshasa.
Ça va, comment vous venez?
Voilà, merci, et merci beaucoup Roger. Madame Gertrude, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Oui, parlez un peu fort, Madame Gertrude.
Bonjour à tout le monde, et merci pour la parole.
Voilà, allez-y.
Et nous savons que pour offrir un service de qualité, cela nécessite absolument des moyens. Moi, je remarque que la SNEL a eu une faiblesse dans sa politique de mobilisation des fonds. Je dis cela parce qu'il y a des quartiers qui sont tant bien que mal alimentés par un courant électrique, mais qui ont fait des années sans pour autant être facturés. Et les cabines sont laissées à la merci des jeunes gens du quartier qui ne sont pas forcément épousés. Ça, c'est un manque à gagner et pour la SNEL et pour les populations qui ne savent pas accéder à un service. Et là, je suis tentée de dire que la SNEL n'a pas la maîtrise de la demande en courant électrique pour toute la population. Et par rapport à la sous-exploitation des barrages, est-ce que les travaux que vous annoncez vont élever le niveau d'exploitation et quels sont les quartiers ou bien les zones qui vont en bénéficier en premier? Vous allez le faire progressivement ou bien vous allez le faire pour toute la population au même moment? C'était là ma question.
Merci beaucoup, Madame Gertrude. Ça nous pousse à jeter un regard sur le projet de loi portant code de l'électricité, qui était d'ailleurs en discussion au Parlement, à l'examen. Ce code prévoit la libéralisation du secteur et l'ouverture du marché de l'électricité, les régimes juridiques de la concession, la licence, l'autorisation et la liberté pour les services publics de l'électricité, l'exportation et l'importation de l'électricité, le principe de la décentralisation et la répartition des compétences entre le gouvernement central et les entités territoriales décentralisées, les désengagements de l'État du secteur marchand de l'électricité, le cadre institutionnel composé du ministère de l'énergie, l'autorité de régulation et de l'agence d'électrification, l'application des tarifs rémunérateurs et enfin la protection de l'environnement et le développement durable. Un mot peut-être sur ce projet, Monsieur Ladé.
Justement, ces projets de loi qui est au Parlement actuellement, c'est une solution que le gouvernement trouve donc pour arriver justement à booster les taux d'électrification du pays, et ceci en rendant le secteur attractif et en amenant justement la concurrence que un auditeur a même proposé. Et cette façon de faire, nous espérons donc qu'il y aura des opérateurs, plusieurs opérateurs qui pourraient voir le jour et qui pourront donc, comme SNEL, faire face à ces défis, relever donc les défis de l'électrification du pays.
Voilà, vous avez eu des réactions des auditeurs tout à l'heure, Madame Gertrude, qui a fait de bonnes propositions également.
Oui, c'est vrai qu'on décrit bien souvent que nous n'avons pas une très bonne politique commerciale pour prendre en compte tous nos abonnés. C'est que nous informons Madame Gertrude que depuis l'année passée au mois de juin, nous avons mis en place une cellule spécialisée que nous avons appelée cellule de recouvrement spécial, et qui a pour mission notamment l'identification des abonnés. Vous savez que nous avons fait recours, nous, les Congolais, à la fraude, au raccordement frauduleux, etc. Et aujourd'hui, donc, le travail, c'est de pouvoir identifier tous ces cas et de pouvoir régulariser ces cas-là. Nous espérons y arriver et la fameuse cellule de recouvrement spécial a fait des performances. Nous avons pu récupérer en 6 mois 23 millions de dollars. Et cet effort aujourd'hui fait que d'une cellule, nous sommes arrivés maintenant à structurer cette cellule qui est aujourd'hui, qui apparaît dans la structure SNEL et qui est appelée une brigade. Une brigade qui a une mission justement de nous aider à identifier les gens, à facturer les gens, à recouvrer justement les fonds de SNEL.
La question sur les factures forfaitaires, les forfaits accordés,
les,
ça aussi ça fait couler beaucoup d'encre.
Les factures forfaitaires, il faut bien comprendre pourquoi les factures forfaitaires. Eh bien, vous avez dit que nous avons un problème, il faut beaucoup de capitaux pour pouvoir faire l'électricité, c'est vrai. Et l'électricité, contrairement à ce qu'un abonné, un auditeur a dit, pardon, que ça devait coûter moins cher, non. L'électricité, c'est un produit industriel. Partout au monde, vous pouvez vous informer, l'électricité n'est jamais gratuite. Donc nous devons également une évolution culturelle chez nous pour comprendre que l'électricité, c'est un effort et il y a un coût qu'il faut couvrir et c'est une industrie. S'il n'y a pas l'argent nécessaire pour pouvoir faire l'électricité ou pour payer l'électricité, eh bien, comme toute industrie, eh bien, elle va aller à la faillite. Donc l'électricité a un prix et la qualité a un prix. Il faut investir beaucoup d'argent et donc il faut que l'électricité ait un seuil de rentabilité. Et puisque donc l'électricité a un prix et qu'il faut payer ses factures, malheureusement donc il faut équiper l'abonné pour arriver à bien comptabiliser ce qu'il consomme. Il s'est fait malheureusement que faute de moyens, que tous les abonnés, 600 000 abonnés aujourd'hui, eh bien, il y a la plupart n'ont pas des compteurs. Alors, maintenant qu'ils accèdent à l'électricité, qu'est-ce faut-il faire pour qu'ils puissent honorer les factures SNEL? Eh bien, on procède par le forfait. Mais notez que ce forfait n'est pas arbitraire. Ce forfait est basé sur des paramètres vérifiables. Notamment, nous savons quelle est la quantité d'électricité que nous devons personnes dans un quartier déterminé. Nous connaissons le nombre d'abonnés dans ces quartiers. Nous identifions les plus gros consommateurs du quartier que nous mettons donc à marche. Et le restant, eh bien, nous faisons une moyenne que nous affectons à chaque abonné. C'est ce que nous appelons une facturation forfaitaire.
Oui, monsieur Ladé, avant qu'on puisse conclure cette émission, permettez-moi de revenir un peu en arrière parce qu'il y a des auditeurs qui nous ont pris en cours. Vous avez décidé donc la mise en arrêt de Zongo et du groupe 26 Dinga 2. Et c'est vrai, mais d'aucuns craignent toujours les conséquences qui peuvent survenir.
C'est vrai que lorsque vous retirez une production de 11 MW à Zongo, certainement qu'il y a des clients qui peuvent être perturbés. Mais avant donc d'arrêter Zongo, qu'avons-nous fait pour minimiser les désagréments? C'est que nous avons, ce sont les postes de Badiadingui et des Gombe qui sont concernés, parce que c'est là que les lignes qui viennent de Zongo arrivent, aboutissent à Kinshasa. Eh bien, nous avons mené un travail qui consistait à ramener une partie de la charge de Badiadingui sur Makala. Makala, lui, est alimenté par l'Imété. L'Imété, c'est le réseau d'Inga. Donc, ce que nous avons fait, nous avons ramené une partie de la charge de Badiadingui sur Inga, en réalité, de telle manière que lorsque nous arrêtons Zongo, que les désagréments ne soient pas accentués. Voilà ce que nous avons fait. En même temps, donc, puisque nous allons manquer cette source de Zongo, techniquement, il va y avoir un problème de tension. Et donc avoir déchargé Badiadingui devrait alléger des agréments, mais on ne pourra pas éviter un certain délestage cyclique comme je l'ai annoncé auparavant, et là nous allons communiquer avec nos clients. L'effort que nous ferons c'est de ne pas laisser les gens continuellement dans le noir, mais c'est plutôt le faire cycliquement.
Je suis en solution. Voilà. Alors en une minute on va conclure, et dans votre conclusion je souhaiterais que vous abordiez également la question de l'exportation de notre courant, de l'électricité.
Oui. Aujourd'hui, les réseaux électriques doivent être interconnectés aux réseaux voisins pour plusieurs raisons. Pour avoir un secours mutuel et pour également stabiliser les systèmes électriques. Notre pays a des interconnexions avec les pays d'Afrique australe à travers la Zambie, avec le Congo-Brazzaville, avec le Rwanda, avec le Burundi. Et ces interconnexions sont là depuis toujours. Maintenant, il faut noter que depuis quelques années, les choses, les sens s'est inversé. Hier, nous avons vendu l'électricité vers l'Afrique du Sud, vers la Zambie. Aujourd'hui, c'est nous qui importons de la Zambie pour pouvoir atténuer les déficits qui se posent au Katanga du fait justement de l'étiage de Lualaba qui est la source du fleuve Congo. Donc, les importations aujourd'hui, il faut oublier, nous exportons plus, c'est plutôt nous qui importons. Donc il n'y a pas des millions que nous amassons du fait de l'exportation. Bien au contraire, il y a des millions que nous dépensons pour pouvoir acheter l'énergie à l'extérieur, voilà. pour combler les déficits.
Vous semblez très optimiste, je crois que d'ici 2015, on atteindra les objectifs
du millénaire pour le développement. Absolument, il y a un programme qui est mis en place. Il n'est pas sur papier, il est déjà sur terrain, et il vise justement à doubler la desserte, améliorer la qualité et la quantité de l'électricité qui est desservie à la population.
Eric Mbala, nous rappelons que vous êtes Monsieur Ladé, donc l'administrateur délégué de l'AFNEL. Merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt.
Merci.
Merci à tous d'avoir participé à ces débats. Merci également à Guy Mandangou qui a assuré la mise en onde de ce programme. Titi Mpoutou et Pierre Lamégi l'ont réalisé. Et Gilles Lungembo vous l'a présenté et coordonné sous la supervision de Nicole Ngaka. L'info continue sur notre site www.radiocapi.net. Demain, parole aux auditeurs, va vous accorder encore la parole sur les dons de 100 millions de dollars du partenariat mondial pour l'éducation accordé au gouvernement congolais. Pensez-vous que ces fonds pourraient améliorer le système éducatif? Inscrivez-vous déjà et faites-nous parvenir à l'adresse pa@radiocapi.net vos commentaires et préoccupations, et vous pouvez également les poster sur notre page Facebook. À très bientôt.